Jacques, le ravi, Radio Grenouille.
Bonjour à tous, bienvenue dans la Grande Tchatch, l'émission de la rédaction du Ravi en partenariat avec Radio Grenouille. À 24 heures du premier tour des élections municipales, on va parler du Front National avec la sociologue Christelle Marchand-Lagier qui sera notre invitée. Bonjour.
Bonjour.
On parlera des spécificités du Front National en PACA. Qui vote Front National? Il sera question aussi du Front Républicain. Le Premier ministre vient de lancer un appel aux Républicains à tout faire pour qu'il n'y ait aucun maire Front National. On abordera bien entendu d'autres sujets. Avec moi pour présenter cette émission, Michel Guéraud, bonjour.
Bonjour.
Une tradition dans cette émission, c'est le portrait de l'invité et c'est Michel Guéraud qui s'y colle.
À quelques heures du premier tour des élections municipales, nous aurions pu, une fois de plus, inviter un homme politique. Stéphane Ravier, par exemple, le candidat marseillais du Front National, nous aurait expliqué que tous les problèmes de la ville, du département, de la région, de l'Europe et du monde viennent de ces étranges Français aux origines étrangères. Nous aurions pu, tout aussi bien, inviter un abstentionniste. L'une des marchandes de poissons du Vieux-Port, par exemple, que TF1 interroge pour sonder l'opinion locale. Mais il nous a semblé qu'avant de se précipiter ou pas dans les bureaux de vote, il était bon de prendre un peu de recul. Michel Marchand-Lagier, vous êtes donc la femme de la situation. Maître de conférences de sciences politiques à l'Université d'Avignon, vous affichez déjà, à 37 ans, un CV très complet. Votre thèse, soutenue en 2005, porte sur les électrices du Front National. Votre méthode de recherche conjugue analyse politique et enquête sociologique de terrain. Vous avez ainsi longuement suivi des femmes ayant voté FN dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Difficile de résumer vos nombreux travaux. Simplifions en disant que si vous êtes une spécialiste du vote FN en PACA, vous étudiez aussi le parcours de nos élus régionaux, les mécanismes de l'abstention et la cohérence des préférences électorales des citoyens ordinaires. Un projet vous tient à cœur, la création d'un observatoire scientifique du politique en PACA pour étudier les bases régionales et sociales du vote. Mais avant d'entamer cette émission, soyons francs. De la même façon que les motivations des électeurs ne sont pas toujours rationnelles, les décisions des journalistes obéissent aussi à des logiques complexes. Si nous vous avons préféré parmi les éminents représentants de l'honorable corporation des sociologues politologues, c'est au regard d'un épisode essentiel de votre récit biographique. Après vos études à Sciences Po Aix-en-Provence, sans allocation de recherche pour financer votre doctorat, vous avez été assistante parlementaire d'un député, puis médiatrice culturelle dans un théâtre. Mais surtout, et c'est là l'élément déterminant, vous avez été durant 4 ans artisan fleuriste indépendante. Une sociologue sensible au pouvoir des fleurs, nous ne regrettons vraiment pas de ne pas avoir invité Stéphane Ravier.
Le pouvoir des fleurs selon la chanson de Woolsey. Un commentaire, Christelle Marchand-Lagier.
Merci pour ce portrait. Effectivement, un parcours un petit peu atypique dans l'univers universitaire, on va dire. Qui vient du fait, pas d'allocation pour faire la thèse. Donc, effectivement, l'obligation de travailler. Et de la même façon que les gens que j'ai pu rencontrer, une trajectoire qui m'a menée vers les fleurs, la reprise d'une entreprise familiale, qui a été d'ailleurs très très riche en termes de contacts, et de contacts qui m'ont permis de sortir un petit peu de l'endogamie sociale universitaire et justement d'aller vers des individus, des citoyens, des électeurs qui pouvaient avoir des préférences tout à fait différentes des miennes aussi.
Alors des fleurs, on passe directement au cactus avec la première question de Michel Guéraud.
J'en déduis qu'il y a des électeurs Front National qui aiment les fleurs, donc fin de la parenthèse. PACA première pour démarrer peut-être, est-ce qu'il y a une spécificité du vote FN en PACA? Est-ce que ce vote-là est plus décomplexé qu'ailleurs?
Alors, spécificité, c'est vrai que la région PACA, depuis 30 ans maintenant, se caractérise par une implantation, un enracinement très fort du Front National. Pour mémoire, en 2002, le Front National progresse en PACA de 10%. Il progresse de 1% seulement au niveau national. Donc on a effectivement un enracinement très fort qui fait que c'est devenu une marque politique qui, de scrutin en scrutin, est présente aux différentes élections, qui peut être un choix possible pour un certain nombre d'électeurs au premier tour. Et puis la région PACA, et particulièrement le département du Vaucluse sur lequel moi je travaille, se caractérise par une situation économique très difficile. Le Vaucluse est un des départements les plus pauvres. On est aussi sur des régions sur lesquelles les écarts de revenus sont très fort, et le sentiment de ne pas tous avoir accès aux mêmes biens est tout à fait particulier. Une pression foncière aussi qui est très très forte et qui fait qu'un certain nombre d'enfants du pays ne peuvent pas se loger et n'arrivent pas à trouver de possibilités dans cette région. Donc des obligations de partir et une concurrence avec une population très mobile, puisqu'on est dans une région où la population circule et où il y a effectivement des occasions de concurrence très forte entre les gens qui habitent ici et ceux qui arrivent d'ailleurs.
Alors Alors, vote honteux, vote totalement assumé, on a l'impression qu'on assiste à une sorte de décomplexation, je ne sais pas si ça se dit, enfin les gens sont de plus en plus décomplexés de s'avouer clairement. Les instituts de sondage, notamment, annoncent qu'ils font des corrections quasi nulles aujourd'hui par rapport au vote FN.
Alors, sur les travaux des instituts de sondage, moi je suis toujours très très prudente. Pour donner un exemple simple, j'ai repris une enquête par entretien au début du mois de septembre et je me suis dit je vais aller à la rencontre des électeurs du FN puisqu'il y en a énormément. Sur le Vaucluse, je vais forcément en trouver. Et donc j'ai essayé d'en rencontrer en lançant des annonces à la radio, en allant dans les rues demander aux gens s'ils votaient Front National, en tapant aux portes, en faisant différentes démarches et en passant par les contacts que j'avais, y compris des contacts étudiants pour rencontrer un certain nombre de personnes. Entre septembre et aujourd'hui, j'en ai rencontré 12 personnes qui ont accepté de répondre à une enquête, à un entretien. Alors dans les instituts de sondage, effectivement, on nous dit sur un échantillon représentatif de 1000 personnes, 30% qui déclarent qu'elles vont voter Front National aux prochaines élections. Ça fait quand même 250 personnes qui répondent oui, je vais voter Front National par téléphone à quelqu'un qui les appelle de manière totalement désincarnée, ça me paraît beaucoup.
Peut-être que le corps à corps et le téléphone justement, et maintenant, puisque les instituts, en tout cas certains des instituts de sondage utilisent Internet maintenant, c'est peut-être plus facile d'avouer.
Alors ce qu'on sait en tout cas, et ce qui est à peu près sûr, c'est que c'est parmi ces électeurs que les gens déclarent le moins. C'est-à-dire que c'est ceux qui répondent le moins aux enquêtes. Nous, on a fait des questionnaires sortis des urnes. À la sortie des bureaux, on a une sous-représentation énorme des électeurs du FN par rapport aux résultats du bureau et par rapport aux autres électeurs. Donc, effectivement, ils ne répondent pas aux enquêtes. Et ils sont moins disposés à donner leurs préférences politiques. Moi, je pense qu'on continue à redresser de manière assez importante pour la bonne et simple raison que le Front National, c'est un peu le scénario bankable des élections. C'est vrai que c'est quand même le petit suspense politique qu'on peut maintenir dans un système politique et dans une vie politique qui fait rêver de moins en moins de citoyens.
Est-ce que c'est un indice du fait que la fameuse dédiabolisation dont les journalistes, un terme que les journalistes utilisent beaucoup, n'est pas si évidente que ça, puisqu'il y a encore beaucoup de retenue à s'affirmer électeur du Front National ?
Alors la dédiabolisation, elle est très largement accentuée par les médias.
On peut la situer, une date pour la dédiabolisation, 2002, tout le monde convient de 2002, est-ce que c'est avec la présence de Le Pen au deuxième tour ?
Non, je pense que c'est un mouvement qui intervient davantage dans la succession de Jean-Marie Le Pen et notamment l'arrivée de Marine Le Pen. C'est vraiment une vraie stratégie qui est mise en place très clairement et nationalement par Marine Le Pen et plus localement dans le Vaucluse par Marion Maréchal Le Pen. Il y a la vraie... Ça, c'est vraiment une stratégie qu'ils ont mis en place. Au contraire, en 2002... Comme on le rappelait, il y a effectivement encore de gros mouvements d'opposition, de protestation. Ça cristallise un certain nombre d'oppositions. Ce qui, effectivement, est-ce que ça serait toujours le cas aujourd'hui sur un second tour ? Je suis pas sûre. Donc, moi, je daterais ça davantage de l'arrivée de Marine Le Pen.
Une question, on parlait des spécificités régionales en PACA. On a le grand privilège d'avoir eu des expériences de Front National à l'échelle municipale, avec une qui se prolonge, même s'il ne s'agit pas du Front National, c'est la Ligue du Sud. On va en parler peut-être plus en détail. On a l'impression que ces expériences, Toulon, Marignane, Vitrolles, et donc Orange, puis Bolène, n'ont pas impacté la progression. Il y a eu des échecs pourtant dans les mairies avec des bilans qui n'ont pas forcément enthousiasmé, y compris les électeurs qui avaient porté ces équipes.
Oui, tout à fait, mais c'est vrai que comme les autres partis politiques, ils ont échoué localement avec cet argument qui était de dire qu'ils ne pouvaient pas faire en local parce que effectivement ils étaient enfermés dans un système national qui ne leur permettait pas de mettre en place un certain nombre de choses. Effectivement, le Front National est comme les autres partis politiques attachés à un certain nombre d'affaires, et de ce point de vue-là, et contrairement à l'argument qu'ils développent et qui serait de dire qu'il est un parti hors système, moi je persiste à dire qu'il intègre complètement le système aujourd'hui. Il ne fonctionne pas différemment des autres partis politiques. Il participe aujourd'hui d'un système électoral dans lequel il se taille une part significative dans un flux de votants qui est de moins en moins certain, puisqu'on a un abstentionnisme intermittent qui se développe de plus en plus. Le Front National progresse, mais il n'y a pas un recul important de l'abstention, par exemple. On ne peut pas dire qu'il ramène vers les bureaux de vote des électeurs qui en seraient partis. Non, il se taille une part dans un flux d'électeurs qui sont là. Et je pense qu'effectivement, il n'est pas différent des partis politiques qui aujourd'hui occupent la scène politique en termes de professionnalisation, de stratégie électorale et d'électorat.
Donc on ne peut plus dire aujourd'hui ce que dit volontiers le Front National, que le Front National est un parti anti-système justement, en qualifiant l'UMPS, etc.
Pas du tout. C'est une rhétorique qui ne tient absolument pas quand on observe un petit peu les comportements électoraux. Il est aujourd'hui un parti vers lequel ponctuellement les électeurs vont aller. Mais comme ils vont ponctuellement éventuellement vers la droite ou vers la gauche, hein, et qui explique d'ailleurs les alternances politiques. Hein, pourquoi passe-t-on de la droite à la gauche à un moment donné? C'est qu'il y a bien des gens qui s'abstiennent et qui, à un moment donné, reviennent voter. Et là, il est rentré dans cet équilibre-là, à mon avis.
Alors, quand on vous écoute, quand on vous lit, vous dites souvent il y a des électeurs du Front National, il y a des Front National. Alors, restons sur l'aspect territorial. Votre expertise, c'est le Vaucluse, mais est-ce qu'il y a des caractéristiques du FN dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Var? Est-ce qu'on peut, comme ça, en quelques mots, photographier des tendances ou des choses qui... Alors, je ne parle même pas du 06 avec une sociologie peut-être quand même différente que celle des autres départements.
Alors, moi, je vais toujours parler du point de vue des électeurs, hein, puisque c'est vrai que je travaille à partir de ce focus-là. Moi, je peux dégager trois profils, en fait, d'électeurs, trois types d'électeurs. Bon, il y a évidemment cette génération des plus anciens. Et on le disait, sur un territoire, sans doute, la PACA, le Vaucluse, dans lequel on a un terreau d'individus qui ont été socialisés à l'extrême droite, à l'Algérie française, un terreau monarchiste aussi, voilà, des gens qui constituent cette frange un peu idéologique du Front National, qui est représentée en fait par les générations les plus anciennes, mais qui est une infime partie, hein, de l'électorat du Front National, et qui choisit cette offre politique-là parce qu'il n'y a pas autre chose en fait, hein, elle est trop modérée pour eux en général, et ils choisissent celle-ci. Il y a une deuxième catégorie qui rassemble des électeurs de tous les âges et des électrices de tous les âges, et qui, sur notre département, le Vaucluse, mais aussi en PACA plus généralement, et s'il y a une caractéristique, c'est peut-être ça, vient de la droite. On est quand même sur des électeurs de droite qui, à un moment donné, ne trouvent pas, ne sont pas satisfaits par l'offre politique et se retrouvent dans ce choix-là. Ces électeurs-là, ils n'appartiennent pas du tout aux catégories les plus défavorisées. On est plutôt sur une classe moyenne des électeurs.
C'est une tendance nouvelle, ça, cette porosité ou cette proximité des électorats ?
La porosité sur nos territoires, elle est évidente. Hein. Je pense qu'on parlait de décomplexification. Tout à l'heure, c'est exactement ça. Je pense que oui, il y a une porosité qui est sans doute plus grande qu'ailleurs. Et là, je renvoie aux travaux de mes collègues. Joël Gombin travaille là-dessus depuis des années maintenant. La porosité est plus importante parce qu'il y a, voilà, il y a une sorte de facilité finalement à des alliances qui sont locales, qui sont là, qui sont imprégnées. On travaille avec des gens avec lesquels on travaille depuis des années. C'est moins compliqué. Il y a moins de résistance, ça c'est certain. Et puis la dernière catégorie, moi que j'ai rencontrée là dans mes derniers entretiens, c'est ce qu'on appelle les primo-votants, les plus jeunes, hein, ceux qui arrivent, qui ont voté en 2012, qui vont voté là en 2014, et qui alors eux sont plutôt dans des milieux dans lesquels ils n'ont pas du tout été socialisés politiquement, ni la droite, ni la gauche et la droite c'est la même chose, ils n'ont pas d'hygiène idéologique à l'égard du Front National, pour eux ça devient un choix possible parmi d'autres, et comme il a toujours été présent à tous les scrutins depuis une trentaine d'années dans la région, bah pourquoi pas ce choix plus qu'un autre, quoi. Voilà, donc on est vraiment sur ces trois profils à mon avis.
C'est un choix stimuli ou c'est un choix réfléchi quand même de ces catégories jeunes qui jusqu'à présent étaient quand même totalement hermétiques aux extrêmes, enfin à l'extrême droite en tout cas?
Alors, qu'est-ce qu'on appelle un choix réfléchi? Quand on commence à réfléchir
de
cette...
Le Front National se distingue quand même par soit les nostalgiques d'Algérie, soit ceux qui avaient des difficultés financières, des gens déclassés, etc. Quand on est jeune, 20 ans, on n'a pas spontanément envie d'aller vers le Front National.
Non, sans doute. Après, on est quand même sur des générations qui sont sans illusions, hein, ni sur leur avenir professionnel, ni sur les perspectives, ni sur ce qui les attend.
Le non-futur des années 70, vote sont, FN aujourd'hui.
Enfin, un petit. Je sais pas. Je peux pas dire ça, mais je pense qu'il y a quand même une absence d'avenir, une absence de perspective qui est quand même assez importante. Et puis, c'est quand même des générations qui ont été socialisées pour le coup à l'alternance politique. Hein. Ils ont vu la droite, ils ont vu la gauche, ils n'ont pas le sentiment que les choses vont mieux, et ils se disent après tout, pourquoi pas. Le Front National.
J'élargis la question peut-être une tarte à la crème de journalistique, mais cette fameuse dichotomie entre un vote d'adhésion et un vote de protestation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé, en particulier avec l'arrivée de Marine Le Pen, ou est-ce qu'on mesure des tendances ou...
Alors, sur le vote d'adhésion, parler de vote d'adhésion, ça part du principe que l'électeur est rationnel. Or, l'électeur rationnel, très honnêtement, dans les enquêtes que moi j'ai pu faire, j'en rencontre pas beaucoup. Et quand j'en rencontre, c'est en général les individus qui sont les plus compétents politiquement, hein, ceux qui ont les capitaux culturels, sociaux, politiques les plus élevés. Ensuite, la grande majorité des gens que je rencontre sont des gens qui entretiennent, qui ont des préférences politiques, mais qui ne savent pas très clairement les expliquer. Pour le dire clairement, là j'ai rencontré des gens qui sont même engagés sur des listes FN, auxquelles je demande quelles sont les mesures du Front National qui les satisfont le plus, ils ne sont pas capables de me sortir une mesure. Donc ça veut dire qu'ils ne connaissent pas le programme du FN. Et quand ils m'en sortent une, c'est pour me dire la suppression de l'euro et pour m'expliquer que ce n'est pas réaliste du tout et qu'en fait ils pensent qu'on ne peut pas le faire. Donc ils justifient leur vote Front National par la seule mesure qui leur paraît en fait pas crédible, qui est la sortie de l'euro avancée par Marine Le Pen. Donc sur la rationalité et le vote d'adhésion, j'ai quand même toujours beaucoup, beaucoup de prudence par rapport à ça. Vote de protestation, ce que je peux mesurer moi dans les entretiens que j'ai faits, c'est que la préférence FN, elle intervient à des moments de trajectoire qui sont effectivement compliqués pour les gens. Voilà. Moi, les personnes que j'ai rencontrées, c'est souvent des personnes qui n'étaient pas originaires de la région, qui sont déplacées, qui ont reconstitué des modes de sociabilité autour de personnes qui sont proches du Front National. Et la préférence FN devient la participation à ces nouveaux modes de sociabilité. C'est davantage ça hein, que de la véritable protestation. Après, effectivement, on a des gens qui se disent à un moment donné, bah, pourquoi pas eux ? Mais ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le vote FN est un vote sans illusion. Et alors, ni adhésion, ni protestation, mais sans illusion, c'est sûr. Y compris ceux qui disent « oui, je vais voter Front National parce que j'en ai ras-le-bol », etc. Mais je pense, enfin, ils disent tous, mais je pense qu'ils ne feront pas mieux que les autres.
Alors, quand même, on a l'impression, je me trompe, qu'il y a un marqueur du vote FN, en tout cas des discours de Jean-Marie, Marine, Marion Maréchal Le Pen. C'est le rejet des étrangers. Il y a eu beaucoup de variations, en particulier sur le programme, la ligne économique du Front National, de l'ultralibéralisme hier à une espèce d'étatisme social aujourd'hui. Mais il y a quand même une continuité, un marqueur, c'est la faute aux étrangers. Est-ce que ça, c'est pas le grand dénominateur commun, ou le plus petit, j'en sais rien, de l'électorat, ou on se trompe ?
Alors. Ça joue inévitablement pour des catégories qui ont... Enfin, ce que j'ai pu repérer, moi, c'est que le sentiment que notre propre trajectoire, en fait, est problématique, elle pousse à regarder quelle est la trajectoire des autres, effectivement. Et quand... on est dans une société dans laquelle les individus ont tendance à regarder celui qui a le moins. Et on a toujours le sentiment que, finalement, on cherche à voir celui qui va avoir des aides, celui qui va avoir des choses comme ça, alors que nous, qui travaillons, nous n'avons rien. Voilà, ça, c'est le discours qui revient. Donc, est-ce que c'est vraiment un rejet de l'étrangers ou est-ce que c'est des gens qui sont dans des situations critiques dans lesquelles ils se disent à un moment donné mais après tout pourquoi pas moi et je me retrouve là. Alors le Front National on n'est plus à une modification programmatique près, hein. Si on prenait les 30 dernières années on se rendait compte qu'il a à peu près tout proposé, tout et son contraire et donc il n'y a pas de véritable grande rationalité là-dedans. Ce qui est sûr c'est qu'il parle au bon sens, il parle à l'émotion, il parle aux frustrations, il parle aux gens voilà, sur leur quotidien, sur leurs difficultés et la stratégie, enfin on en reparlera mais stratégie d'un Jacques Bompard à Orange, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on s'occupe du quotidien des gens qui sont en difficulté, qui ne sont pas des gens qui sont nécessairement défavorisés, parce qu'il ne faut pas croire que le vote FN est un vote misérabiliste. Ça, c'est une interprétation qui arrange souvent beaucoup, mais les pauvres ne votent pas plus Front National que les autres, en fait.
Il y a une évolution, quand même, quand on parle d'étrangers. Avant, avec, en tout cas, Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen, il y avait un rejet de l'étranger. Il y avait aussi un antisémitisme qui était marqué. Aujourd'hui, l'antisémitisme semble quelque chose qu'on dévoile moins, en tout cas.
Oui, il y a des aménagements de discours et des aménagements programmatiques, mais qui, à mon avis, ne changent pas grand-chose sur le fond. Les idées restent les mêmes, le programme reste le même, il y a simplement un emballage qui a un petit peu changé, et puis voilà, la volonté d'aller d'instrumentaliser un certain nombre de thèmes qui sont en vogue dans la société aujourd'hui, tels que la laïcité par exemple, tellement plus facile de prendre ça plutôt que de parler du problème vraiment des étrangers. Donc voilà, il y a l'instrumentalisation d'un certain nombre de thèmes, mais sur le fond, je pense qu'il y a très peu de changements, et dans les intentions et dans le programme.
Alors vous dites par contre, il y a un changement important, c'est la stratégie de Marine Le Pen que refusait son père, d'implantation locale. C'est ce à quoi on assiste dans la séquence qui est la nôtre, avec un record, je crois, j'ai pas le chiffre, battu en termes de nombre de candidats proposés à ces municipales, et une vraie ambition d'aller à cet échelon-là, de s'implanter, de s'enraciner à cette échelle-là du jeu politique.
Oui, ça, c'est une vraie nouveauté, je pense. Les chiffres que moi j'ai vus, hein, c'est effectivement presque 600 listes, je crois, sur l'ensemble du territoire, et un sixième sur la région PACA. Donc, c'est une centaine. Donc, on est évidemment très privilégié en la matière. Et on se retrouve... je pense que ça, c'est vraiment la nouveauté. Ce qu'elle a mis en place à Hénin Beaumont, hein, très clairement. Ce que Marion Maréchal Le Pen a mis en place et met en place de manière très précise sur le Vaucluse. La volonté, c'est d'avoir un maximum d'élus sur ces élections municipales, mais de conseillers municipaux, pas nécessairement de tête de liste, hein, mais être présent dans les exécutifs municipaux pour pouvoir s'implanter des gens, qu'ils soient reconnus, qu'ils soient au contact des individus. Et là, pour le coup, c'est vraiment la stratégie de Bompard, quoi, qui gagne aujourd'hui, alors qu'il a été à un moment donné en opposition frontale avec Jean-Marie Le Pen. Donc, je pense que ça a fait tomber, en fait, les oppositions... La stratégie de Jean-Marie Le Pen, c'était de remettre la tête sous l'eau à chaque personne qui localement émergeait. On l'a vu avec Guy Macari sur Carpentras, quelqu'un qui localement avait un essor considérable. Dès qu'il a pu, le tacler, il a fait quoi. Donc voilà, on se retrouve vraiment.
Dans les Bouches-du-Rhône, on pense à Bruno Maigret.
Évidemment, et c'est la stratégie de Bruno Maigret, qui, l'ensemble de la stratégie qui a été mise en place dans ces élections, et notamment le fait qu'on remet en place des campus Bleu Marine, des formations pour les militants, pour les candidats, etc. Ça, c'est la stratégie Maigret qui revient au goût du jour, avec cette idée que c'est en s'implantant localement, en étant proche des gens, qu'on va arriver à gagner un certain nombre d'élections.
Je rappelle que Bruno Maigret, en 2001, quand il y a eu la dissidence, avait fait sur Marseille 10,44% et le FN seulement 7,31%. Les seuls conseillers municipaux, il y en avait trois à l'époque, c'était ceux de Bruno Maigret. Michel.
Le Front National, le mouvement Bleu Marine, donc pour vous, c'est quelque chose qui est devenu homogène, ou est-ce qu'il y a encore des tensions entre finalement peut-être le canal historique, la vieille garde et puis ce qui essaie de se construire sur Marseille, par exemple, on a senti avec des candidats, une candidate débauchée par exemple du Front de Gauche, des tensions. C'était plutôt une idée de Collard et Stéphane Ravier n'était pas forcément enchanté avec ce type d'apport.
Les tensions, elles sont inhérentes en fait à ces partis d'extrême droite de toute façon qui coalisent un certain nombre de sous-courants qui ont énormément du mal à se fédérer. Et puis oui, le canal historique dont vous parlez, je pense que les anciens aujourd'hui rabaissent un peu leurs prétentions parce que la stratégie a l'air de marcher. Mais le Rassemblement Bleu Marine tel qu'il est envisagé aujourd'hui, c'est la mort programmée du Front National tel qu'il a existé. Et il se diffuse et il marche très très bien sur nos territoires parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, il y a un certain nombre de frontières qui sont tombées, de passerelles qui sont plus faciles entre les candidats de droite et d'extrême droite. Donc oui, évidemment, il y a des tensions autour de ça. Le seul truc, c'est que ça a l'air de fonctionner et qu'à partir du moment où ça fonctionne, vous avez un certain nombre de personnes qui disent on va suivre le mouvement parce qu'a priori, ça peut marcher.
Alors, la communauté pieds noirs, on va en parler dans la région, on est obligé d'en parler. Dans la région, ça suscite souvent des attentions particulières à la veille des échéances électorales. Là, on a eu le 19 mars, par exemple, avec beaucoup de présence d'élus de droite et d'extrême droite. Traditionnellement méfiants à l'égard de la gauche, plutôt hostiles aux gaullistes, les pieds noirs sont toujours, aujourd'hui encore, fidèles au Front National ?
Alors, moi, je peux parler à partir des entretiens qualitatifs que j'ai pu réaliser avec un certain nombre d'électeurs du FN qui étaient pieds noirs. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'au moins dans ces familles-là, c'est un vote qui s'était très largement diffusé, des grands-parents aux enfants et aux petits-enfants. Ça, c'est ce que je peux observer. Après, l'histoire s'éloigne, c'est sûr que...
Mais parler du vote pieds noirs, ça a toujours un sens aujourd'hui en 2014.
Alors... Moi, les échos que j'ai pu avoir, c'est que les associations pieds noirs aujourd'hui s'essoufflent et qu'effectivement, il y a de moins en moins de gens qui y vont. Et puis, ça n'a pas de sens pour les nouvelles générations parce que c'est une identité qui a été construite au moment de l'Algérie et de la décolonisation. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui va perdre du sens inévitablement dans les années à venir. Et on peut effectivement penser que le comportement électoral va se normaliser. Mais aujourd'hui, moi, dans les entretiens que j'ai pu avoir, familialement, c'est quelque chose qui, effectivement, peut contribuer à une préférence politique Front National, mais qu'on va retrouver dans d'autres familles, en fait, où ça reste quand même un vote collectif, quoi. On vote en famille pour le FN, entre amis pour le FN, mais comme souvent pour les autres préférences politiques aussi.
Alors, continuons dans cette description de l'électeur, des électeurs, de l'électorat en général du Front National. Les femmes, elles votent Front National. On a vu que le Front National aujourd'hui est dirigé par une femme, que la Dauphine est également une autre femme, Marion Maréchal Le Pen. Quand on est femme, on s'inscrit volontiers au Front National ou c'est encore plus compliqué que dans les autres partis ?
Alors,
pour rappeler aux auditeurs, pour la règle des municipales, je crois que la parité est totale.
Oui, la parité est totale, tout à
donc
fait.
Donc ça complique encore...
Évidemment, ça complique énormément les choses pour justement monter des listes aussi Front National. Et si vous regardez un petit peu les patronymes, vous vous rendez vite compte que vous avez la mère, la grand-mère, la fille, dans les limites de la loi, parce que c'est toujours problématique.
Ou les noms de jeunes filles.
Ou les noms de jeunes filles, tout à fait. Mais c'est vrai sur d'autres listes, et pas seulement sur celle-ci, parce que la parité reste une contrainte assez forte pour les partis politiques. Est-ce que quand on est femme, on se déclare plus facilement ou pas Front National aujourd'hui ? Il est sûr que les femmes, en règle générale, ont une intériorisation beaucoup plus forte de la norme sociale. Et que de dire « je vote Front National », c'est plus compliqué sans doute pour elles que pour les hommes. Donc pendant longtemps, on a pensé que les femmes votaient moins FN que les hommes. Est-ce qu'elles votaient moins FN que les hommes ou est-ce qu'elles le déclaraient moins ? Ça, on ne le sait pas. Maintenant, est-ce que l'arrivée de Marine Le Pen, de Marion Maréchal Le Pen, change les choses ? Moi, je n'ai aucune donnée sur le fait que ce soit des femmes, permet d'attirer davantage de femmes. J'ai rien dans mes entretiens qui me permet de dire ça. J'ai aucune femme qui m'a dit oui, c'est une femme et c'est pour ça que je vote pour elle. Par contre, ça a un effet générationnel évident, ça c'est sûr. Sur les primo-votants dont je parlais tout à l'heure, on a effectivement là une génération qui dit oui, je suis venue parce que c'est Marine Le Pen. Je ne serais pas venue si c'était Jean-Marie Le Pen. Et Marion Maréchal Le Pen sur le Vaucluse apparaît quand même comme quelqu'un de jeune, de dynamique, de très professionnel et qui peut séduire une génération de jeunes qui ne seraient pas tournés vers la politique. Et la stratégie qu'ils ont mis en place dans ces élections, c'est de présenter beaucoup de têtes de liste jeunes, pas par choix, hein, mais par contrainte, parce qu'ils n'ont pas en fait le personnel politique nécessaire. Et ça a stimulé quand même des adhésions de jeunes gens qui se disent à un moment donné, il y a un renouvellement. Quoi.
Même si les termes utilisés ou en tout cas travaillés par le Front National sont d'habitude hostiles aux femmes, je pense à l'IVG, la politique de natalité, etc. Tout ça, ça parle quand même, malgré toutes ces barrières, ça...
Ça a bougé hein, là-dessus aussi. Hein. C'est vrai que, on prend la trajectoire même de Marine Le Pen. C'est une trajectoire moderne. Hein. C'est pas la trajectoire de quelqu'un qui, elle a quand même beaucoup diminué ses attaques contre ses avancées en fait de la condition de la femme. Donc, je pense que c'est des choses qui sont reléguées un peu au second plan et par le parti et qui sont laissées de côté pour celles que ça pourrait déranger et qui votent pour ce parti-là.
Michel.
On a parlé très rapidement, je voudrais qu'on y revienne, de la question des frontières ou de l'absence de frontières entre les droites et l'extrême droite. Notre sentiment, c'est que dans le Vaucluse, le département est assez significatif des mouvements en cours. Est-ce que vous le mesurez aussi?
Oui, je le mesure. Après, moi, je pense effectivement qu'il existe à droite hein, une portion très majoritaire d'électeurs de droite républicains qui ne passeront jamais et qui ne franchiront jamais le pas pour aller voter Front National. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense que l'identité de la droite de gouvernement, elle est là. Et que le fait d'aller sur les terrains du Front National, de faire de la surenchère programmatique, c'est en train justement de tuer cette droite de gouvernement. Mais effectivement, dans le Vaucluse, on a des habitudes de langage, on a des tabous qui sont moins importants qu'ailleurs, des liens qui sont plus anciens, plus établis et qui font que, on prend par exemple là sur Carpentras la campagne menée par le candidat UMP Julien Aubert qui a lancé le rassemblement Bleu Lavande hein, et les tracts qui sont donnés par Julien Aubert aujourd'hui sont clairement ceux, on pourrait penser que ce sont ceux du Front National, c'est-à-dire qu'il est vraiment sur cette surenchère programmatique là et je pense qu'il est en train justement de décrédibiliser complètement la droite républicaine qui ne survivra pas si elle va dans cette surenchère.
Elle est quand même assez coincée, c'est-à-dire que pour s'adresser à son électorat, elle doit aller, elle tente en tout cas, elle pense qu'elle doit tenter de reprendre des éléments de langage et des éléments programmatiques du Front National. Et puis c'est la fameuse expression de Jean-Marie Le Pen, les électeurs, etc., préfèrent toujours l'original. Est-ce qu'il y a une porte de sortie ?
De mon point de vue, c'est une véritable erreur politique de faire ça. C'est-à-dire que la droite a
c'était
une...
C'était la droite populaire, hein, Thierry Mariani, Vaucluse, beaucoup d'élus de la région, des Bouches-du-Rhône, Dominique Tian, par exemple, à Marseille, peut-être futur... premier adjoint de Jean-Claude Gaudin, s'il est réélu, qui font partie de cette mouvance-là.
Bien sûr, tout à fait, mais je pense que ça contribue à brouiller les lignes politiques. Le Front National est... Enfin, à mon sens, c'est peut-être ce que je vais dire un peu surprendre, c'est un épiphénomène hein, qui prospère sur le vide laissé par les autres formations politiques. Aujourd'hui, la droite, si elle va sur le terrain de l'extrême droite, elle perd en crédibilité, elle perd en identité et elle n'arrivera pas en fait à récupérer ces électeurs-là. En fait, on parlait de banalisation tout à l'heure. La banalisation, elle vient de quoi ? Elle vient du fait que c'est le Front National aujourd'hui qui impose les termes du débat politique. Normalement, quand il parle immigration, quand il parle insécurité, les candidats de droite et de gauche devraient répondre emploi, développement, culture. Et ne devraient pas répondre immigration, insécurité. Sinon, ils se perdent complètement de leur identité.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.
Le Ravi, la Grande Tchatche, Radio Grenouille. Avec nous aujourd'hui la sociologue Christelle Marchand-Lagier. On parle du Front National. Vous avez évoqué tout à l'heure un terme qui était... le Front National était bankable pour les élections parce que ça permettait d'en parler. Alors finalement, le Front National, il y a une véritable progression. On assiste à une véritable progression ou au contraire à une surmédiatisation?
Alors, ce terme bankable, c'est pas moi qui l'ai utilisé, c'est un collègue sociologue qui s'appelle Jean-Yves Dormagen qui travaille effectivement aussi sur ces questions-là, et notamment sur la problématique de l'abstention qui est très liée à la problématique du Front National. Effectivement, il y a un scénario qui plaît aux médias et qui fait que c'est intéressant de mettre en... On le voit dans les médias aujourd'hui, on parle de quoi ? On parle des communes qui vont pouvoir basculer, on parle de... effectivement, parce que quel est l'autre suspense qu'il existe en politique aujourd'hui ? Il y en a très très peu. Donc oui, je pense effectivement que c'est un scénario qui marche bien. Et la banalisation dont on parle, elle vient de là aussi, on en parle tous les jours. D'accord. Y compris aujourd'hui.
Donc surmédiatisation.
Surmédiatisation.
On se rappelle d'ailleurs aux dernières cantonales en 2011, 400 candidats présents au second tour. Le FN parlait de 50 élus et in fine, il n'y en a eu que deux. Donc, véritable surmédiatisation.
En Provence, Alpes-Côte d'Azur.
Alors, évidemment. Donc, il faut être prudent quand même, parce que les cantonales de 2011, qui sont un scrutin intermédiaire sur lequel, en général, on ne porte pas une analyse très développée, elles ont quand même marqué un changement. On s'est retrouvés, notamment dans le Vaucluse, avec des duels PS, Front National au deuxième tour, c'est-à-dire la droite éliminée. Et là, le Front National qui apparaît, et pour le coup, on parlait tout à l'heure de ces frontières de plus en plus poreuses entre la droite et l'extrême droite, qui apparaît comme le choix possible à droite pour un certain nombre d'électeurs. Et là, on s'est rendu compte que sur des deuxièmes tours, le Front National progressait en voix. Donc il y a eu une progression quand il devient la seule offre politique à droite. Et là, je pense qu'il y a quand même quelque chose. Surmédiatisation, oui, parce qu'en termes d'effet politique, il n'y a effectivement qu'un élu. Mais en termes de progression électorale, là, pour le coup, sur ce scrutin, il y a eu une progression.
Alors, on parlait du Front National responsable de deux municipalités. Et là aussi, de discours, certains disant arrêtons effectivement de dramatiser, laissons aller le Front National aux affaires, et puis on verra bien qu'ils sont comme les autres et les électeurs se détourneront. Alors, effectivement, on a connu ça très vite, très rapidement, dans des séquences rapides, à Toulon, à Marignane, beaucoup moins vite, à Vitrolles. Et il y a un contre-exemple, celui d'une implantation réussie, celle de Bompard, alors qu'il n'y a pas l'étiquette. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas d'étiquette, c'est ça qui a fait la différence de son destin politique, hein, ou il y a autre chose? Et puisque vous nous dites que la stratégie, la nouveauté du Front National aujourd'hui, c'est cette logique d'implantation, à l'échelon local, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de l'expérience du député maire, conseiller général de Vaucluse, Bompard?
Alors, là aussi, hein, dynastie familiale, hein, ils ont, son épouse, ils trustent le Nord Vaucluse, hein, leur fils s'est déjà présenté au dernier cantonal, donc voilà, on est vraiment, encore une fois, sur un schéma qui est très, très particulier. Jacques Bompard, il se présente au départ sous l'étiquette FN, il est d'abord élu avec cette étiquette-là, qui quitte après pour des raisons tout à fait...
Il est un des fondateurs du Front National,
enfin, sur le plan idéologique, il est parmi les purs et durs, hein, du FN, ça c'est
et
sûr.
Et il n'a pas bougé.
Là, que ce soit la Ligue du Sud, là aujourd'hui il est extrême droite, je crois. Il est même sans étiquette, je crois, pour l'élection. Bon, alors ça, c'est un jeu tout à fait... C'est un jeu de dupe total. Mais ce qui est sûr, c'est que... Quelle est la stratégie de Bompard? La stratégie de Bompard, c'est exactement celle du Front National aujourd'hui. C'est-à-dire, ce que je disais tout à l'heure, caresser les électeurs dans le sens du poil et les électeurs qui votent pour lui. Parce que Jacques Bompard, c'est la stratégie qu'il a mis en place. Hein. Effectivement, il a assaini les finances de la ville en supprimant les subventions à toutes les associations, en supprimant toutes les aides sociales qu'il pouvait supprimer. Et puis, il embellit la ville pour les gens qui sont des orangeois de souche et qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux. Et il a une stratégie de communication de proximité. Donc il bichonne un électorat qui continuera à voter pour lui. Et en face, il a effectivement une offre politique qui peine à se renouveler et des électeurs qui ont complètement démissionné.
Pourquoi ça a marché à Orange et ça n'a pas marché à Vitrolles alors que c'est le même profil de candidat, Maigret, Bompard, c'est à peu près la même chose. L'un est énarque, l'autre est plutôt calé aussi dans la gestion, c'est pas déplaisant. Hein.
Non, c'est sûr.
Après,
peut-être que du côté de Bruno Maigret, il y avait une ambition nationale aussi qui était beaucoup plus forte et qui peut-être a joué en défaveur de son implantation locale. Je ne sais pas s'il croyait vraiment à cette implantation locale à Vitrolles ou si elle était un marchepied vers une carrière plus nationale, alors que Bompard a vraiment joué la stratégie d'implantation sur Orange. C'est peut-être ça la différence. Après, vraiment, je n'ai pas travaillé la question, donc je ne pourrais pas vous répondre de manière précise, mais je pense effectivement que ce qui fait l'élection de Bompard aujourd'hui et qui malheureusement risque de se renouveler encore une fois, c'est le fait des gens qui ont démissionné, de ceux qui ne vont plus voter. C'est 6000 électeurs à Orange qui aujourd'hui ne votent pas sur un scrutin municipal, ce qui s'est passé en 2008. C'est cela qu'il faut aller reconquérir, rechercher, et c'est là, à mon avis, la stratégie des candidats opposants.
Alors on arrive au sujet, on pensait à l'aborder un peu plus tard, mais allons-y, l'abstention. Vous dites qu'il y a un lien, une mécanique très liée entre le vote FN et l'abstention. Alors pourquoi ?
Alors, un lien mécanique, je ne sais pas s'il y a un lien mécanique. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un abstentionnisme intermittent aujourd'hui qui caractérise une grande frange de l'électorat. Et qui fait que d'élection en élection, vous avez des gens qui vont voter et puis qui ne votent pas et puis qui reviennent. Parce que pensez le Front National comme un électorat homogène. Pensez les abstentionnistes comme, pareil, un groupe homogène, c'est une erreur. Les abstentionnistes d'une élection à une autre, ce ne sont jamais les mêmes. Donc, effectivement, il est clair qu'on ne sait pas sur ce scrutin. Enfin, les dernières élections municipales en 2008 au premier tour, c'est 35% d'abstention. d'abstention, je crois, entre 33 et 35. On se retrouve là en se disant, est-ce qu'il va y avoir de l'abstention ou pas? C'est ça qui va faire les élections, en fait. C'est l'abstention qui va faire l'élection de tel ou tel candidat. On peut se dire aujourd'hui que peut-être les électeurs du PS vont être très, très peu mobilisés sur cette élection-là. S'ils ne vont pas voter, ça va changer un certain nombre de résultats sur un certain nombre de communes. Donc voilà, il y a vraiment une inquiétude par rapport à ça. Il y a un comportement intermittent abstentionniste qui s'est généralisé.
Alors, l'abstention du premier tour, c'est le réservoir pour le deuxième tour ?
C'est le réservoir pour le deuxième tour. Il faut arriver à mobiliser entre les deux tours, ce qui n'est pas nécessairement évident. Moi, je pense par exemple que sur, on en a parlé tout à l'heure, de stratégie de front républicain sur un deuxième tour, on aura énormément de mal à mobiliser les abstentionnistes et à leur demander de venir voter. C'est un réservoir, mais je pense aussi qu'il y a, enfin nous, pour avoir travaillé, fait des questionnaires sortis des urnes, hein, il y a beaucoup de gens qui ne votent pas au premier tour, qui viennent voter au second, mais vous avez aussi beaucoup l'inverse, hein, et qui ne sont pas nécessairement les mêmes non plus. Donc il y a des gens qui ont des vraies stratégies de vote au premier tour, des vraies stratégies de vote au deuxième tour, et puis voilà, qui ne votent nécessairement pas pour les mêmes formation politique non plus.
L'électeur du Front National s'abstient moins que l'électeur du Parti Socialiste, du Front de Gauche ou de l'UMP. Il est plus mobilisé, il est plus régulier, moins intermittent, comme vous dites.
Alors, je pense qu'il est tout autant intermittent. Après, il va se mobiliser sur des scrutins hautement médiatisés. Je pense que ça joue beaucoup. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez une ville sur laquelle on jette le projecteur pendant des semaines et des semaines en disant si celle-là, elle bascule, bah oui, peut-être que les gens vont se mobiliser davantage parce qu'on en parle plus, parce que, etc. Mais je ne suis pas sûre qu'effectivement, ils se mobilisent davantage. Sur les cantonales dont on parlait tout à l'heure, il est clair que les électeurs du FN se sont mobilisés. Mais ces électeurs du FN, ils étaient sans doute composés d'une partie d'électeurs de droite qui n'ont pas trouvé d'offre au second tour qui soit proprement de droite. Donc, ils sont allés sur cet électorat-là. Est-ce qu'ils avaient anticipé le fait de se mobiliser avant le premier tour s'il y avait un électeur du FN? Franchement, je ne suis pas sûre.
Alors, je repose la question, est-ce que l'abstention avantage le Front National d'une façon ou d'une autre par rapport aux autres partis, ou est-ce qu'on ne peut pas dire ça?
En fait, tous les électeurs de partis qui ne vont pas se déplacer vont favoriser les autres formations qui vont se déplacer, c'est évident. Et je crains que le PS, là, à ces élections-là, fasse les frais, effectivement, d'une abstention relativement élevée. Pas sûr que l'UMP récupère non plus avec ce qui se passe en ce moment et le nombre d'affaires liées aux personnalités politiques de l'UMP. Donc oui, on pourrait dire que les électeurs du Front National sont ceux qui aujourd'hui ont sans doute le plus de chances de se mobiliser.
Et que dire d'une stratégie par exemple d'un Mélenchon qui a voulu justement faire un match front contre front en essayant en tout cas stratégiquement de s'adresser aux abstentionnistes, entre autres, et en personnifiant... D'ailleurs, ça n'a pas trop bien marché.
Je pense que la stratégie n'est pas mauvaise, mais qu'effectivement, la personnification incarnée par Jean-Luc Mélenchon pose problème sur le scrutin dont vous parlez, ça c'est sûr. Après, la stratégie idée contre idée, elle me paraît être la plus pertinente aujourd'hui. Et Mélenchon l'a dit une fois, hein, a dit on n'a pas à parler de ça parce que Marine Le Pen nous a dit qu'il fallait en parler. Et effectivement, je pense que quand on parle de banalisation, c'est ça, c'est les thèmes que le FN veut mettre à l'agenda des élections. Et si les partis politiques ne se conforment pas à ce programme proposé par le Front National, mais avancent d'autres thèmes sur d'autres sujets, il y a sans doute des chances, c'est offre contre offre, quoi, qui à mon avis me paraît pertinent.
Alors la notion de vote utile pour les électeurs du Front National, on a vu que Marseille aujourd'hui est très hésitante, il y a un certain équilibre. En 1995, par exemple, dans la ville de Marseille, le FN progresse de 21,99% des voix, et au second tour, il y a une baisse du vote et un report sur la droite. Notamment, c'est grâce à ça que Jean-Claude Gaudin gagne. Donc l'électeur Front National, quand il a une alternative à droite, il fait le vote utile également au second tour.
Souvent, enfin en tout cas là, quand je parlais tout à l'heure des électeurs de droite qui effectivement dans nos territoires sont effectivement ceux qui viennent nourrir peut-être les rangs du Front National au premier tour, et ça on le voit très bien sur l'élection de Sarkozy en 2007, hein, c'est très net. On voit des gens qui vont voter Front National au premier tour et qui ont voté très, très massivement Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Moi, les électrices que j'avais rencontrées à la fin des années 90 et que je retrouve en 2010, quand je leur demande ce qu'elles ont voté en 2007, elles sont 13 sur 14 à me dire qu'elles ont voté Nicolas Sarkozy. Et pourtant, elles comptaient parmi des gens qui étaient très implantés au Front National, assez engagés, parfois encartés. Donc, voilà, ces mouvements, ils sont jamais définitifs, en fait. Et là, c'est vrai que Nicolas... Alors après, le retour de bâton a été encore plus fort, hein, mais Nicolas Sarkozy, en allant sur la surenchère programmatique, a ramené ces électeurs-là vers la droite, mais très ponctuellement, de manière très épisodique. Et alors derrière, c'est encore plus difficile ensuite. Donc c'est dans ce sens-là que je dis que cette stratégie, elle est caduque, parce qu'elle ne permet pas durablement de ramener les électeurs vers les formations républicaines.
On peut penser qu'aujourd'hui, en 2014, pour ces élections municipales sur Marseille ou d'autres villes d'ailleurs, certains espèrent qu'au deuxième tour, l'électeur du Front National fera un vote utile et ira vers la droite spontanément.
Sans doute, sans doute. J'avoue que je me risque rarement au pronostic parce que je suis pas. C'est toujours un exercice très difficile. Oui, je pense qu'il y a encore des barrières qui sont pas tombées et que effectivement il y a un certain nombre d'électeurs de droite qui voteront pour la droite au second tour, pour peu qu'elle soit présente évidemment.
Alors inversement, on peut faire un autre pronostic sans prendre aucun risque, même en ce samedi. C'est que il va y avoir énormément de triangulaires. Le Front National va être en mesure de se maintenir et que ça va offrir des perspectives à la gauche, au Parti Socialiste en général, puisque ça sera lui qui sera en tête, peut-être même d'emporter certaines villes comme Marseille, ça semble très juste, Aix-en-Provence, alors que si on additionne les droites et les extrêmes droites, il n'y a pas photo, il n'y a pas de majorité.
Bien sûr, non, mais ça c'est tout le problème à mon avis de notre système politique et électoral aujourd'hui, c'est que les partis se sont accommodés de ça. C'est très avantageux pour les partis de gouvernement d'avoir un Front National en triangulaire. Il crée évidemment la possibilité d'une élection qui n'existe pas dans d'autres cas.
Le seuil de qualification pour le second tour, 10%, c'est relativement faible. Oui. Ça avantage beaucoup le Front National.
Oui, encore que sur un certain nombre quand même de communes, il est au-dessus, malheureusement, sur les différentes élections. Donc de toute façon, à mon avis, sur un certain nombre de communes, il va être en position de se maintenir. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est dans une position de plus en plus sur un certain nombre de scrutins, y compris les scrutins intermédiaires dont on parlait tout à l'heure, de redistribuer les cartes au deuxième tour. Et c'est ça, en fait, c'est sa capacité à bousculer le jeu et toute la difficulté qu'on a aujourd'hui à dire, bah oui, c'est un tel ou un tel qui risque d'être élu. À défaut de gagner, il peut faire perdre, tout à fait.
Question sur l'évolution des choses. En revenant à l'exemple du Vaucluse, l'implantation de Jacques Bompard, le fait de sa notabilisation n'a pas semblé adoucir son discours, parce qu'on peut faire cette hypothèse-là aussi, que en devenant des élus normaux, des barons locaux, l'extrême droite va se banaliser et devenir une droite un peu radicale, mais pas plus que ça. Est-ce que c'est un scénario envisageable, mesurable, ou est-ce que elle peut à la fois s'implanter, qu'est-ce qui se passe dans le Vaucluse, tout en restant sur sa radicalité?
Oui, parce qu'elle ne s'implante pas sur la radicalité de son programme, c'est ça l'implantation, elle va se faire sur l'activité menée au quotidien, sur la proximité, sur le fait qu'on va aller s'intéresser aux petits problèmes des orangeois qui à un moment donné ont besoin qu'on les écoute, c'est pas plus que ça en fait. Donc il peut durcir son discours quand il s'adresse aux médias nationaux, il peut avoir des mesures qui finalement mettent à l'écart une certaine partie de la population que les orangeois ne veulent pas voir, sans que ça pose problème à cet électorat qui va continuer à voter pour lui. Donc une fois qu'ils sont implantés, je pense pas qu'ils vont que leur discours va se policier du tout. Par contre, ils risquent d'être enfermés dans un certain nombre. Ils risquent de ne pas pouvoir mettre en place le programme qu'ils souhaitaient mettre en place, ça c'est sûr, et heureusement, parce qu'ils sont dans un cadre national plus général.
Rappelons aux auditeurs des Bouches-du-Rhône ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a deux députés, le Vaucluse, deux députés d'extrême droite, deux maires, le groupe Bompard d'extrême droite, un conseiller général, et un phénomène intéressant avec un rapprochement Front National Ligue du Sud, donc une espèce d'union des extrêmes droites rejoint par une partie de la droite. Le maillage se fait
Le maillage se fait très bien entre Carpentras, Orange, Bolène, c'est clair.
Une interco qui pourrait basculer si Sorgue, celle de Sorgue.
Tout à fait. Hervé de Lepineau, qui était le suppléant de Marion Maréchal Le Pen, est un proche de Jacques Bompard. Donc les ponts sont tout à fait établis entre ces personnalités-là, hein, ça c'est certain. Et oui, il y a une volonté d'implanter des gens. La stratégie intercommunale, elle est au cœur aussi de ce dispositif-là. C'est pas un hasard si Sorgue a été choisi. Sorgue est emblématique de la stratégie gagnante du Rassemblement Bleu Marine, hein, puisque le candidat est effectivement dissident UMP. Donc voilà, on se retrouve vraiment sur un Front National qui va exploiter des possibilités locales sur un certain nombre de communes de test, très clairement, et qui entame un maillage du territoire.
Donc c'est ce modèle-là que le FN cherche à exporter vers les départements voisins et la région.
Tu pourras pas exporter peut-être partout, hein, parce que je pense que voilà, il y a pas le même terreau économique, il y a pas le même enracinement non plus depuis de si longues années, donc ça risque de pas être aussi évident que ça. Mais il est certain que chez nous, ça fonctionne.
Un mot peut-être, c'est pas irréversible le vote Front National. Je prends l'exemple de Toulon, par exemple, qui a été une ville symptomatique. Elle a été gérée par le Front National. En 2008, au premier tour, le Front National fait 6,55%. Et on n'en parle plus aujourd'hui comme d'une ville potentiellement gagnable pour le Front National. Est-ce que M. Falco écoute davantage les Toulonnais, ou est-ce que l'État a été plus généreux avec Toulon en l'aidant davantage ?
Peut-être les deux, et puis peut-être le fait aussi qu'il n'y a pas de... Enfin, les candidats aussi que le Front National est susceptible de présenter, c'est pas toujours évident d'être présent sur un ensemble de communes. Ils ont fait le choix d'abandonner aussi un certain nombre de villes, hein, c'est-à-dire en disant, de toute façon, là, on n'a pas nos chances et on ne va pas aller sur ces communes-là. De toute façon, ce que vous dites, le vote Front National, il est totalement... réversible. Ça, j'en suis persuadée. Hein. C'est-à-dire que les gens qui votent Front National aujourd'hui sont des catégories d'électeurs que les autres formations politiques peuvent récupérer.
Y compris à gauche.
Y compris à gauche, évidemment. Alors, oui, parce qu'on a... Mais notamment sur ces primo-votants, sur ces électeurs-là qui n'ont pas encore stabilisé leur choix politique, qui aujourd'hui sont en attente d'une offre qui puisse les séduire. Ceux-là, à mon avis, la gauche, oui, évidemment qu'elle a sa carte à jouer, comme on le disait tout à l'heure, sur des générations qui entrent dans la vie et qui, normalement, ne devraient pas être séduite par un vote FN.
Un mot peut-être sur ce qui donne la migraine au Parti communiste et au Front de gauche aujourd'hui, l'hémorragie de l'ouvrier vers le Front National, c'est une image épinale ou c'est...
Ouais, alors là, les travaux là-dessus, les travaux scientifiques un peu sérieux là-dessus montrent que c'est assez fantasmé en fait. Hein. C'est-à-dire que d'abord, ça part du principe et que les ouvriers voteraient tous à gauche.
Hein, parce qu'en déjà, le Front National se présentait comme le premier ouvrier de France.
Bah oui, évidemment, il a été le premier parti des artisans de France aussi, indépendants, commerçants, évidemment. Mais voilà, d'abord, il y a cette espèce de mythe de l'ouvrier qui voterait à gauche.
Alors, juste une parenthèse, il semblerait, non, les études montrent que il y a un vote ouvrier FN très important, non, actuellement.
Il y a un vote des individus qui sont les plus précarisés, effectivement, qui peuvent se retrouver dans ce parti. Et les ouvriers qui ont subi un certain nombre de transformations, une identité ouvrière qui a beaucoup souffert aussi, qui peut se retrouver dans ce parti. Mais des ouvriers qui votent à droite, il y en a toujours eu. Il y a un vote ouvrier en faveur de Sarkozy en 2007 qui est très important aussi. Donc voilà.
Travailler plus pour gagner plus,
voilà,
c'est beaucoup joué.
Ouais. Voilà, tout à fait. Ouais. Donc c'est vrai que Le Front de gauche et le PS sont toujours un peu déstabilisés par cette idée que ces ouvriers qui sont notamment normalement des catégories de gauche aillent vers le Front National. Il n'est pas sûr que ce soit ceux-là qui aillent, hein, d'accord. Et le Parti Socialiste aujourd'hui doit s'interroger sur le fait qu'il est devenu un parti de notables, quoi. Il n'est plus un parti ouvrier. Et ça, c'est la vraie question. Qui croit encore que le Parti Socialiste représente la classe ouvrière? Je sais pas.
Alors, parlons de trois villes qui sont susceptibles vraiment de tomber dans l'escarcelle du Front National. Il y a Brignoles, Tarascon, Fréjus. Il y a une singularité entre les trois villes ?
Alors, c'est des communes que je connais peu, hein, parce que c'est vrai que moi, je travaille davantage sur les communes du Vaucluse. Ce qui est sûr, c'est que sur les trois communes, je ne crois pas me tromper si je dis qu'on a quand même une offre politique qui est bien éclatée, et notamment des dissidences à droite. Alors, souvent deux, trois candidats de droite, deux, trois de gauche, etc. Donc, on se retrouve là, évidemment, on disait tout à l'heure, des scénarios très ouverts dans lesquels le Front National peut trouver une place, nécessairement. Et puis voilà, on est dans des communes aussi où il y a des indicateurs de chômage qui sont assez élevés aussi, qui montre qu'on a des situations, des populations en difficulté, mais des populations qui sont dans les populations moyennes, hein, qui ont des perspectives d'avenir qui sont très, très réduites. Donc, bon, Brignoles, je ne sais pas, on va voir comment ça va se passer. On a surmédiatisé une cantonale partielle, et c'était encore une fois très exagéré.
Alors, un point peut-être quand même sur Tarascon et Fréjus, il y a un point commun, c'est des maires qui ont des problèmes avec la justice.
Oui.
Est-ce que ça, c'est un marqueur, un indicateur aussi, un facilitateur du vote FN ? Est-ce que vous le mesurez dans vos entretiens qualitatifs ou d'autres études le montrent ? Est-ce que... Yann, voilà, ça crée un terreau, ces affaires, on en connaît beaucoup aussi dans les Bouches-du-Rhône, favorable à ce parti.
Il faut faire attention, parce qu'il y a souvent la prime à la casserole. Hein. Plus un maire est accablé, plus on le réélit volontiers.
On constate ça aussi, effectivement.
Non, c'est sûr que le climat des affaires tel qu'il est présent dans ces communes-là, mais plus largement dans la région, pose quand même un certain nombre...
On ne parle pas non plus des malheurs de Nicolas Sarkozy et des écoutes, etc.
Voilà, ni de Marie-Josée Roigat à Avignon, voilà, qui est quand même la commune, qui est la commune phare du département du Vaucluse. Donc voilà, on se retrouve quand même avec une classe politique qui est décrédibilisée, qui traîne un certain nombre d'affaires, et ça En entretien, ça se traduit par quoi ? C'est tous les mêmes. Ils y vont pourquoi ? Parce que la place est bonne et qu'ils veulent la garder. Donc évidemment que ça joue.
Tous pourris.
Le tous pourris, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Il n'y a aucune illusion en fait sur cette classe politique, mais aucune illusion sur les nouveaux élus FN. Ça, il faut quand même en avoir conscience. C'est-à-dire qu'on va essayer quelqu'un qui n'a jamais été au pouvoir, mais on n'a aucune illusion sur le fait qu'ils seront comme les autres. Et ça, je pense que c'est un peu ce qui va peut-être nous sauver.
Alors, il y a des choses qui nous étonnent. C'est par exemple le fait qu'une partie des Français d'origine étrangère ou immigrés peuvent être séduits aussi par ce courant. C'est marginal ou c'est quelque chose de... Alors on pense à Dieudonné par exemple et
Soral,
à Soral
notamment, qui vient faire un travail de fond dans les quartiers noirs à Marseille.
Alors, est-ce que c'est marginal ? Là, il faudra avoir des études statistiques sur la question, j'en ai pas. Pourquoi ? D'abord parce que c'est très dur d'interroger aussi ces populations-là et que celles qui répondent ne sont pas forcément représentatives de celles qui n'acceptent pas de répondre. Moi, quand j'ai fait des démarches dans un quartier d'Avignon, notamment la Croix des Oiseaux, qui est un quartier très clivé entre un habitat pavillonnaire, propriétaire et puis des cités HLM, je me suis retrouvée effectivement à rencontrer des gens qui étaient des immigrés et qui me tenaient un discours « oui, je vais voter Front National parce que j'en ai marre de travailler depuis des années, depuis 30 ans. Moi, je me suis intégrée, j'ai essayé, je paye des impôts et tous les jours, je suis confrontée aux incivilités et à la délinquance des jeunes des quartiers. » Donc voilà, on est vraiment, oui, ça arrive parce que c'est des gens finalement qui ont le sentiment d'être très intégrés dans la société française, qui, comme les autres Français, ont le sentiment de payer pour les autres. Donc oui, après, sur le mouvement général, global, et profondément idéologique, je ne sais pas, je ne saurais pas le mesurer.
Là encore, les lecteurs, j'allais dire, classiques du Front National ou aujourd'hui de Marine Le Pen, Bleu Marine, est-ce qu'ils acceptent ce nouveau renfort ? Est-ce qu'ils se développent sur ce nouveau terreau en disant finalement, c'est une indifférence, on prend des patriotes d'où qu'ils viennent, ou est-ce qu'il est hermétique à ces nouveaux adhérents ?
Alors, hermétique, je ne sais pas. Enfin, vous parlez là de
des Français issus de l'immigration maghrébine qui sont susceptibles de rejoindre le Front National. Est-ce qu'ils sont acceptés par les autres?
Oh oui,
ou
complètement.
Pas
complètement. Enfin, moi, pour avoir travaillé sur des permanences FN, sur avoir suivi des manifestations, des réunions, etc., il n'y a aucun problème pour tous ceux qui veulent venir, quoi. Alors ça, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de rejet à l'égard de ces personnes-là. Ça, c'est sûr.
Michel?
Le Front Républicain. Bon, on l'a évoqué rapidement, mais c'est vrai que on parlait de Brignoles. Alors, ce à quoi on assiste, peut-être un effet, entre guillemets, positif, en tout cas pour ceux qui s'opposent au Front National à Brignoles, c'est que cette fois-ci, au municipal, les gauches et les écologistes se présentent rassemblés et qu'a émergé aussi dans cette petite ville du Moyen-Var un mouvement citoyen qui fait aussi campagne pour appeler les abstentionnistes à se mobiliser. Donc pour autant, vous dites le Front Républicain, c'est quelque chose qui ne marche pas, ce qui ne marche plus. Pourquoi ?
Alors, c'est quelque chose qui... Là, dans ce que vous évoquez, quand les alliances se font avant le premier tour, quand les candidats arrivent à se rassembler sur des programmes communs et des offres alternatives, c'est très bien. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire. Le Front Républicain qui ne marche pas, c'est celui qui intervient entre les deux tours, qui tente à essayer de solutionner le problème une fois qu'il est là. Ça pose de vrais soucis et ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que quand vous avez trois candidats qui se sont étripés au premier tour alors qu'ils sont tous les trois du même parti, comment vous voulez que ça soit crédible pour les électeurs de se rassembler derrière un Front Républicain? Je pense que ça contribue à brouiller en fait les différences entre les partis. Et oui, ça ne marche pas, ça ne marche plus parce qu'on ne traite pas le problème. Voilà. C'est en amont qu'il faut penser l'offre, qu'il faut la redéfinir. C'est pas entre deux tours. Ça apparaît toujours comme des alliances tactiques qui font que finalement, il y en a un qui va... On va aller soutenir quelqu'un pour qu'il ait la place. C'est ça, le Front Républicain, ça ne peut pas marcher.
Aujourd'hui, quand le Premier ministre fait un appel bien avant le premier tour en disant Front Républicain pour qu'il n'y ait aucun maire FN en France ?
Je trouve que c'est assez révélateur du niveau d'incompétence de nos responsables politiques. Parce que justement, ils n'ont absolument pas compris que c'est assimilé à de la tactique politique et qu'il faut quand même être très... je trouve très culotté pour faire cet appel à des électeurs qui, depuis deux ans, attendent un changement qui ne vient pas.
En même temps, vous le disiez tout à l'heure, il y a à droite et à gauche des gens qui, par conviction républicaine, continuent à être prêts à aller voter pour l'autre camp, parce qu'ils ont le sentiment qu'il y a là un parti qui franchit des frontières, qui le situe hors du jeu républicain. Donc est-ce que il faut renoncer, dire à ces gens-là, renoncer à cette attitude-là?
Non, je pense pas qu'il faille dire aux gens.
On a, pardon, les Bouches-du-Rhône, un élu de Sainte-Marie de la Mer, Edmond Raffi, je ne me souviens plus de son nom, ça ne fait rien, qui lui a franchi, et pour l'instant ils sont peu à le faire, qui avait appelé à voter Front National explicitement, un élu de l'UMP, finalement il n'a pas été exclu. Est-ce que c'est ça l'avenir, ou est-ce que du côté des électeurs et du côté des élus...
J'ai pas de conseil à donner aux électeurs. Les électeurs votent en conscience. À un moment donné, quand il y a une offre politique au second tour et qu'on considère que le candidat qui est en place mérite d'être, enfin, le candidat pour lequel on va voter mérite d'être élu, c'est quelque chose. Quand on ne fait que du vote contre, ça fait des années qu'on ne fait que du vote contre. Ça produit quoi comme structuration idéologique des gens? Je sais pas. Moi, je pense que le combat sur les idées est essentiel, mais qu'il est profondément réduit aujourd'hui, et que c'est pas en multipliant les votes contre qu'on arrivera en fait à redonner goût à la politique à un certain nombre d'individus.
Alors, on va quand même faire un peu de prospective. Les élections sont dans 24 heures. Les villes gagnables, on parle de Saint-Gilles, menée par Gilbert Collard. On parle tout à l'heure de Tarascon, de Fréjus et de Brignoles. On note quand même que le courage politique ne caractérise pas le Front National, quand même, ou certains de ses élus, puisque Marion Maréchal-Le Pen à Sorgues est passée de la 2e à la 10e place. Ça veut dire qu'il y a très peu de chances, à mon avis, pour que Sorgues tombe dans l'escarcelle du Front National.
Là. À voir.
De deux à dixième, oui, je préfère le pari.
Je crois qu'elle ne veut pas être élue, en fait.
Oui.
C'est plus ça le sens.
Je pense qu'elle a trop de choses à faire, en fait, et qu'elle ne peut pas être partout.
On se reverra pour une prochaine émission. Donc, je disais, trois villes.
Oui.
C'est gagnable, c'est jouable, c'est envisageable pour le Front National?
Oui, c'est envisageable, comme je disais.
Trois villes très différentes.
Ouais, hein. C'est sans doute l'abstention qui va beaucoup jouer, quoi. Voilà, est-ce que les électeurs vont se mobiliser ou pas. Après, Saint-Gilles, on a une personnalité...
qui change de directeur de campagne.
Voilà, on a un entourage politique qui est très problématique. On a une personnalité qui est quand même assez... qui a une forme d'arrogance politique, qui fait limite campagne en expliquant qu'il est déjà élu. Bon, ça, bon, je pense que c'est un manque de prudence politique et que c'est pas du tout gagné. Maintenant, oui, ce sont des villes qui peuvent peut-être basculer. La prospective, c'est quelque chose à laquelle je renonce.
On arrive presque au terme de l'émission. Jusqu'où peut aller le Front National, en définitive? Il peut aller jusqu'à gagner l'élection présidentielle?
Je ne sais pas. Je pense qu'on se retrouverait dans une configuration qui serait tout à fait particulière, et au deuxième tour, ce Front républicain qui est fissuré aujourd'hui arrivera à se remobiliser s'il y avait, à mon avis, un candidat FN au second tour, au présidentiel. Je pense qu'il y aurait très très peu de chances d'être élu sur un scrutin comme celui-ci, d'abord parce qu'on aurait le regard de l'ensemble des pays européens et du reste du monde qui serait dirigé sur nous, et puis voilà, parce que je pense que oui, là, pour le coup, la stratégie Front républicain pourrait marcher, pourrait être efficace. Elle l'est beaucoup moins dans des élections locales comme ça, où les candidats sont proches, et plus ils seront implantés, plus il sera difficile de les déloger.
On l'a dit, hein, il y a les villes visées, mais il y a aussi la stratégie d'avoir le maximum d'élus pour s'implanter.
En perspective, en prévision des autres scrutins, ça c'est très clair, hein. Ça c'est évident.
1989, cette année-là, c'est la première fois d'ailleurs que le Front National participe à une élection municipale, c'est à Marseille, 1989, à Marseille. Il fait 13,58% sur l'ensemble de la ville. Il faut savoir qu'il gère déjà la région avec Jean-Claude Gaudin. Aujourd'hui, Ravier, selon les sondages, est à 16%. C'est quelque chose qui va aller crescendo. On peut dire que le Front National est enquisté dans la ville de Marseille.
Alors oui, mais finalement pas tant que ça, hein, quand même. C'est ce qui est un peu rassurant, c'est-à-dire que Marseille est assez emblématique de ces villes où on se retrouve avec des inégalités très fortes entre les populations et qui est un terreau favorable au Front National. Mais je trouve qu'il peine à s'implanter quand même sur Marseille, peut-être aussi parce que c'est cette ville un peu multiculturelle dans laquelle finalement si les gens ne vivent pas ensemble, ils vivent au moins côte à côte et où il y a quand même des habitudes de vie commune qui sont peut-être des garde-fous par rapport à ce type de vote.
Christelle Marchand-Lagier, je vous remercie. Et puis, surtout, n'oubliez pas, allez tous voter. Bye.
Merci.
La Grande Tchatche, le Ravi, Radio Grenouille.